Chapitre 2. Classé top secret et conservé par le ministère de la Défense des États-Unis, ce dossier fut rendu public en 1986, conformément à la loi sur la liberté de l'information. On peut actuellement le consulter au Bureau des Archives nationales américaines, NARA, de Washington, D.C. La série d'enquêtes rapportée ici a été menée sous la direction du major James P. Warren, du service des informations de l'armée de terre, de mars à avril 1946. Le lieutenant Robert O'Connell et le sergent Harold Katayama se consacrèrent à l'enquête sur le terrain. Tous les interrogatoires furent menés par le lieutenant Robert O'Connell, tandis que le sergent Harold Katayama était chargé de la traduction en japonais, et William Cohen, soldat de première classe, de la rédaction des dossiers. Les interrogatoires eurent lieu durant 12 jours dans les salons de l'hôtel de ville de préfecture de Yamanashi. L'institutrice de l'école municipale de la ville de canton de un médecin résidant dans la même ville, deux membres de la police municipale et six écoliers, interrogés séparément, répondirent aux questions. En outre, les cartes du terrain jointes au dossier, échelle 1 10 millième et 1 2 millième, furent établies par le Bureau des recherches topographiques du ministère de l'Intérieur. Rapport du Military Intelligence Service, MIS, établi le 12 mai 1946, intitulé Rice Bowl Hill Incident 1944 Report. Numéro de dossier PTYX 722-893745-42213-WWN. L'interrogatoire ci-dessous, enregistré sur magnétophone, est celui de Setsuko Okamoto, 26 ans, institutrice de 4e année de primaire à l'école municipale de à l'époque des faits. Le numéro d'accès à ce dossier est PTYX 722-SQ 118 à 122. Impression de Robert O'Connell, chargé de l'interrogatoire. Setsuko Okamoto est une femme de petite taille au visage agréable, intellectuelle avec un fort sens des responsabilités. Ses réponses aux questions sont précises, réfléchies et sincères. Toutefois, elle semble encore traumatisée par l'incident. On sent que son stress augmente à mesure qu'elle fouille dans ses souvenirs, ce qui a pour conséquence de ralentir son flux verbal. Il devait être un peu plus de 10 heures du matin. Très haut dans le ciel, on a vu un point argenté, à l'éclat vif. C'était sans aucun doute le reflet de la lumière sur une carlingue de métal. Ce point brillant se déplaçait lentement dans le ciel, d'est en ouest. Nous avons aussitôt pensé qu'il s'agissait d'un B-29. Il volait juste au-dessus de nos têtes. Le ciel était bleu, sans un nuage. La luminosité éblouissante. On distinguait juste cet objet couleur argent qui semblait être en duralumin, mais à une hauteur si élevée qu'on ne voyait pas sa forme. Ce qui signifiait que, de là-haut, on ne pouvait pas non plus nous voir et qu'on ne risquait pas d'être attaqué. Aucun risque qu'on nous largue une bombe dessus. Cela n'avait aucun intérêt de bombarder un coin de montagne perdu comme celui-là. Je me suis dit, soit cet avion est en route pour frapper une grande ville, soit il rentre de mission. Nous avons poursuivi notre marche sans nous méfier. Nous étions plutôt frappés par l'étrange beauté de ce scintillement dans le ciel. Selon les archives militaires, aucun bombardier ou autre modèle d'avion ne survolait cet endroit le 7 novembre 1944, aux alentours de 10 heures du matin. Mais les 16 enfants que j'accompagnais et moi-même l'avons vu clairement, et nous avons tous cru qu'il s'agissait d'un B-29. Jusque-là, nous avions vu quelquefois des formations de B-29, et il n'existe aucun autre avion capable de voler à une telle altitude. il y avait quelques petites bases militaires dans notre préfecture. Et de temps à autre, il nous arrivait de voir des avions japonais, mais ils étaient bien moins gros. Ils ne pouvaient pas monter aussi haut. De plus, le duralumin a un éclat particulier, et les B-29 sont faits de cette matière. Cette fois, il s'agissait apparemment d'un appareil isolé, ce qui m'a paru curieux.
Êtes-vous originaire de cette région ?
Non. Je suis né dans la préfecture d'Hiroshima. Je me suis marié en 1941 et me suis installé ici à ce moment-là. Mon mari était professeur de musique dans un collège de cette préfecture. Il a été appelé sous les drapeaux en 1943. Et il est mort en juin 1945, lors de la bataille de Luçon. J'ai appris plus tard qu'il était chargé de garder une poudrière dans la banlieue de Manille. Un bombardement de l'armée américaine a provoqué une explosion qui l'a tué. Nous n'avions pas d'enfants.
Combien d'élèves accompagniez-vous le jour de l'incident ?
16 en tout. Toute la classe, à l'exception de 2 élèves absents pour raison médicale. Il y avait 8 garçons et 8 filles. Parmi eux, 5, originaires de Tokyo, avaient été envoyés à l'abri à la campagne par leur famille. Nous avions quitté l'école à 9h du matin, munis de thermos et de gamelles contenant les déjeuners. Il s'agissait d'une classe de plein air, ce qui ne signifie pas que nous faisons des études spécifiques. Le but de la sortie était d'aller en montagne chercher des champignons et des légumes sauvages. Dans cette région agricole, nous ne souffrions pas tellement de la pénurie. Assez cependant pour apprécier un complément de ce genre. Le rationnement était très strict et presque toute la population souffrait de faim chronique. Nous encouragions donc les enfants à chercher dans la nature des légumes ou des baies comestibles. On vivait en état d'urgence et personne n'était très disponible pour les études. Nous organisions fréquemment ce genre de classe de plein air. Les lieux se prêtaient vraiment aux excursions. De ce point de vue, nous avions de la chance. Les gens des villes étaient affamés. Les routes de ravitaillement à partir de Taïwan et de la Chine continentale étaient complètement coupées. Le manque de nourriture et de combustible générait des situations dramatiques en ville.
Vous avez mentionné la présence de 5 enfants réfugiés de Tokyo dans votre classe. S'entendaient-ils bien avec les enfants du pays ?
Dans ma classe, les choses se déroulaient à peu près bien. Bien sûr, il n'y avait pas grand-chose de commun entre notre cambrousse et le centre de Tokyo, où ils avaient grandi. Leur façon de s'exprimer, de s'habiller, était très différente de celle des gamins du coin. La plupart des écoliers d'ici étaient des fils et filles de paysans pauvres, alors que ceux de Tokyo venaient de familles d'employés et de fonctionnaires. On ne pouvait pas dire qu'ils se comprenaient vraiment. Au début, surtout, il y avait une certaine tension entre les deux groupes, sans véritable dispute ou brimade, mais simplement, aucun groupe ne comprenait la mentalité de l'autre. Du coup, les enfants du pays ne se mêlaient pas à ceux de Tokyo. Cependant, au bout de 2 mois, ils se sont assez bien habitués les uns aux autres. Dès que des enfants se mettent à jouer ensemble, les barrières culturelles et sociales tombent très vite.
Décrivez-moi de la façon la plus détaillée possible le lieu où vous avez accompagné les enfants.
C'était une colline où nous allions souvent pique-niquer, arrondie comme un bol de riz à l'envers. Nous l'appelions Owanyama, la colline du bol de riz. Les pentes ne sont pas trop escarpées. N'importe qui peut la gravir sans difficulté. Elle se trouve à l'ouest de l'école. Pour en atteindre le sommet à pied avec des enfants, il faut à peu près 2 heures. Nous projetions d'aller chercher des champignons dans la forêt et d'y pique-niquer. Les enfants préfèrent de loin ces cours en plein air aux études.
Cet avion qui scintillait dans le ciel nous a rappelé la guerre un moment. Mais nous l'avons vite oublié. Nous étions pleins d'entrain. Nous nous sentions heureux. Il n'y avait pas un nuage, pas un souffle de vent. Le silence régnait sur la colline, seulement troublé par le gazouillis des oiseaux. Pendant que nous marchions ainsi, il nous semblait que la guerre n'avait plus aucun lien avec nous, comme si elle se déroulait dans un pays lointain. Nous chantions tous ensemble en avançant sur ce sentier de montagne. De temps à autre, nous imitions les chants des oiseaux. Une matinée magnifique, presque parfaite, s'il n'y avait eu la guerre.
Vous avez tous pénétré dans la forêt peu après avoir vu cet objet qui ressemblait à un avion, n'est-ce pas ?
Oui, c'est exact. Il ne s'est pas écoulé 5 minutes entre le moment où nous avons vu l'avion et celui où nous sommes entrés dans la forêt. Nous avons quitté le chemin principal et pris un sentier en pente. C'était le seul passage un peu escarpé. Au bout de 10 minutes d'ascension, on se retrouve sur un plateau assez vaste, sans arbres. Dans la forêt, le silence est absolu. Et l'air est plutôt frais parce que le soleil n'y pénètre pas. Mais juste à l'endroit où nous étions se trouvait une sorte de petite place, sur laquelle le soleil déversait ses rayons. Chaque fois que je montais sur la colline du bol de riz avec mes élèves, je les amenais là. Je ne sais pas pourquoi, ce lieu avait quelque chose d'intime. On y ressentait une grande sérénité. Une fois dans la clairière, nous avons fait une pause et déposé nos affaires. La classe s'est divisée en groupes de 3 ou 4 pour commencer la cueillette des champignons. J'avais fixé une règle, obligation pour chacun de rester dans le champ de vision de ses camarades. J'ai rassemblé les élèves afin de leur rappeler de respecter strictement cette consigne. Il avait beau s'agir d'un endroit que nous connaissions bien, nous étions dans une forêt, et si un enfant se perdait, cela pouvait avoir des conséquences graves. Étant donné leur jeune âge, quand ils étaient absorbés par leur cueillette, les élèves avaient tendance à oublier la règle. Tout en cherchant des champignons, je les recomptais régulièrement. La cueillette avait commencé depuis une dizaine de minutes, quand mes élèves ont commencé à s'écrouler par terre aux alentours de la clairière. Quand j'ai vu les 3 premiers s'effondrer, j'ai aussitôt pensé qu'ils avaient mangé des champignons vénéneux. Il y a beaucoup d'espèces mortelles dans la région. Les gens du pays savent les identifier, mais tout de même, certains spécimens prêtent à confusion. Je leur recommandais donc chaque fois de ne jamais porter un champignon à leur bouche avant de les avoir tous rapportés à l'école et fait examiner par un spécialiste. Mais je n'étais pas toujours obéi. Je me suis précipité pour relever les enfants étendus par terre. Leur corps était complètement mou, comme du caoutchouc ramolli par le soleil. Toute force les avait quittés, et j'avais l'impression de serrer des cadavres dans mes bras. Pourtant, ils respiraient normalement. J'ai pris leur pouls, et les pulsations paraissaient à peu près normales. Ils n'avaient pas de fièvre. Leur visage était serein. Ils ne semblaient pas souffrir. Je n'avais pas l'impression qu'ils avaient été piqués par une abeille ou mordus par un serpent. Le plus étrange était leur regard vide qui évoquait un état comateux. Leurs yeux grands ouverts paraissaient fixés sur quelque chose. De temps à autre, leurs paupières clignaient. Ils ne dormaient pas. Leurs prunelles bougeaient lentement comme s'ils contemplaient un paysage lointain. Il y avait de la conscience dans ces yeux-là. Mais en fait, ils ne regardaient rien. Du moins, pas ce qu'il y avait devant eux. Car même lorsque j'ai agité ma main juste sous leur nez, ils n'ont manifesté aucune réaction. L'un après l'autre, j'ai emporté les enfants dans mes bras. Tous 3 présentaient les mêmes symptômes. Ils étaient inconscients, mais leurs yeux allaient et venaient lentement de droite à gauche. C'était un spectacle peu banal.
Quels enfants ont perdu conscience les premiers ?
Trois filles. De bonnes camarades qui s'entendaient bien. J'ai crié leurs noms et les ai giflées tour à tour, assez fort, pour les faire revenir à elles. Mais elles ne manifestaient aucune réaction. J'ai ressenti une sensation étrange à leur contact, comme si je touchais du vide. Je me suis dit que j'allais envoyer un élève à l'école au pas de course pour appeler du secours. Il m'était impossible de redescendre seul, avec trois enfants inconscients sur le dos. J'ai cherché des yeux le garçon de la classe qui courait le plus vite. Mais quand je me suis relevé et que j'ai regardé autour de moi, je me suis rendu compte que les autres enfants s'étaient eux aussi évanouis. 16 enfants étendus là, inconscients. Il n'y avait que moi qui étais toujours debout. La scène ressemblait à un champ de bataille.
Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal à ce moment-là ? Une odeur, un bruit ou une lumière, par exemple ? Le sujet interrogé réfléchit.
Non. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les environs étaient très calmes, paisibles même. Il n'y avait ni lumière, ni odeur, ni son anormal. Tous les enfants de ma classe gisaient là, autour de moi. J'ai eu l'impression de me retrouver brusquement seul au monde. J'ai ressenti une incommensurable solitude à ce moment-là. J'aurais voulu me dissoudre dans le vide et ne plus penser à rien. Mais, bien sûr, j'étais responsable. J'étais leur enseignante. Je me suis tout de suite ressaisie et j'ai dévalé la pente en courant le plus vite possible pour aller chercher de l'aide à l'école.